52e congrès de la FPI Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, nous sommes en direct de ce 52e congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la date où nous sommes, on est à la veille du premier tour de l'élection aux élections législatives. Donc forcément, les personnes qui étaient prévues, ou certaines, se sont forcément désistées dans ce congrès. Ce congrès a un titre particulier, c'est l'urgence du logement. On va commencer, à, si vous voulez bien les amis, à rencontrer les personnes qui sont au quotidien dans la fabrication du logement des Français, de la fabrication de la ville. Bonjour Pierre Vital.
Bonjour Sylvain.
Le patron, cofondateur de Ideal Group, avec une filiale sur la régénération urbaine qui s'appelle Caractère, que vous avez lancé maintenant il y a trois ans maintenant.
Oui, on a laissé ça en 2020. Et donc, une activité qu'on faisait, on va dire, comme tout promoteur de façon anecdotique et souvent, on ne le faisait pas bien. Et donc, on a décidé de spécifier une équipe, spécifier une stratégie de développement. Et aujourd'hui, c'est un relais de croissance dans le climat qu'on connaît qui est très intéressant.
On a vu, alors, bien évidemment, on ne va pas éluder les problématiques du moment. On a un marché de l'immobilier neuf qui est non seulement grippé, mais on peut le dire qui est considérablement, voire même à l'arrêt. Avec des variations, cependant, mais quand même, on a des baisses dans certaines régions qui atteignent les moins 40% de production de logements. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est non seulement jamais arrivé, mais c'est surtout des facteurs à la fois conjoncturels, bien sûr, et structurels qui se mêlent, mêlés finalement à une façon dont les Français aujourd'hui voient l'avenir avec une certaine forme de désespérance. Quand on voit les chiffres de la demande du logement, on voit que le logement devient une des priorités contraintes même des Français. Comment vous expliquez finalement ce côté un peu schizophrène entre un marché à l'arrêt et une demande pléthorique, vous le savez, hein, à Bordeaux, il y a une demande de logement, en location, en logement neuf, en logement ancien. Comment on l'explique ça ?
Alors, déjà, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les besoins ont beaucoup évolué. Je vois aujourd'hui qu'on a une vraie difficulté, c'est quand même l'accès au logement dans des bonnes conditions et au bon prix. Et ça, effectivement, on a connu une inflation très importante, très significative, à la fois des normes qui ont eu des impacts sur les coûts de travaux, qui ont eu des impacts sur les prix de vente, pareil sur les fonciers. Donc on arrive effectivement à un moment où on a des courbes de capacité d'emprunt versus des prix qui se sont un peu écartés. Il faut trouver des moyens pour les rapprocher, il faut trouver des moyens pour mettre en adéquation des envies et des réalités. Et on voit qu'il y a des solutions aujourd'hui qui émergent. En particulier, on pense au BRS, qui est une façon aujourd'hui de venir absorber un peu le coût du foncier, avec du coup une baisse sur les mensualités à venir. Maintenant, ça reste aussi un dispositif qui est mal connu, mais qui a pour moi toute sa part dans les années à venir. Et on a également beaucoup d'autres choses qu'il faut pousser, puisque un autre sujet qu'on pousse nous aussi dans le groupe, c'est avec Caractère, c'est la réhabilitation. Et on se rend compte que sur la réhabilitation, on a des dispositifs qui existent, qui sont mal orientés, mal fléchés. Et on pousse entre autres avec la fédération à venir élargir par exemple MaPrimeRénov' tout bêtement. Mais c'est un fondamental. Si on n'a pas ça, le marché ne se massifiera pas. Et pourtant, on sent bien que le gouvernement a cette envie d'aller sur la trajectoire bas carbone. Et la solution de la réhabilitation telle que nous on le fait, c'est une des solutions qui pourra le faire.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que la trajectoire bas carbone, vous l'aviez déjà avant même que la norme arrive. La particularité du neuf, c'est qu'on est sur de la construction vertueuse. Même, d'ailleurs, vous avez même évolué. Vous avez beaucoup travaillé les modes constructifs. Vous travaillez sur de la construction parfois hors site. Vous avez des formules béton bas carbone. Vous avez aujourd'hui un travail sur le bois. Et bien évidemment, on parle maintenant de beaucoup de régénération urbaine. La régénération urbaine, est-ce que c'est un nouveau relais de croissance pour les promoteurs ?
Alors oui, c'est un nouveau relais de croissance. Il faut savoir qu'on a créé il y a à peine un an la commission Rénovation, Réhabilitation et Extension que je préside, qui est une commission nationale au sein de la FPI. Et en fait, dès qu'on a des réunions et dès qu'on fait venir des adhérents, on se rend bien compte que c'est un sujet de fond parce que tout le monde nous en parle, les élus, les aménageurs, même les propriétaires qui veulent acheter sur de la réhabilitation. Et à côté de ça, on voit des opérateurs qui ne sont pas ni dimensionnés ni clablés pour le faire. Parce que c'est des technicités différentes, on en parle souvent, il y a de la fiscalité très différente de ce qu'on a dans le neuf, il y a des techniques de construction qui sont très différentes, et en même temps, ça reste un produit qui va être durablement artisanal. Contrairement au neuf, où on a cette capacité à venir travailler sur de l'industrialisation, on parlait du hors-site, on parle de certaines techniques aussi de béton qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides, dans la réhabilitation, on fait avec le déjà-là, dans la régénération, on fait avec le déjà-là, et donc on a des contraintes qui font que bien souvent, on ne pourra pas aller sur de l'industrie au sens hors site, mais on va aller sur de l'artisanat. Donc les coûts travaux sur la réhabilitation, a priori, vont rester assez élevés. Là où on peut espérer dans les années à venir, avec l'industrialisation, une baisse sur les coûts travaux dans le neuf. Donc c'est vraiment un métier à part. Et c'est un métier qui, du coup, est accompagné de façon différente aussi, puisque les fiscalités associées sont différentes.
Est-ce que ça remplace le métier de promoteur classique ? Pas du tout.
Pas du tout. Pour moi, c'est un autre métier.
Est-ce qu'on continuera toujours à construire ?
Oui, de façon évidente, oui. Parce que là, la construction neuve répond à des sujets qui sont des sujets d'usage qu'on ne peut pas réaliser dans la réhabilitation. Et donc, du coup, la flexibilité qu'on a dans le neuf et le fait de pouvoir, du coup, aller, entre autres, sur les nouveaux usages, sur la partie réhabilitation, c'est beaucoup plus compliqué. Venir adapter un EHPAD pour le transformer en résidence étudiante, on en parlait tout à l'heure, c'est un sujet qui, sur le papier, fonctionne souvent, mais parfois ne fonctionne pas.
Dans la réalité, bien sûr.
Dans la réalité. Donc, en fait, on a quand même cette contrainte qui fait que chaque bâti existant, il a sa propre histoire et souvent, du coup, il l'amène sur un usage qui n'est pas forcément celui qu'on aurait voulu, en particulier pour faire du logement neuf.
Alors, vous êtes un acteur déterminant, vous êtes l'un des challengers en France sur la construction de logements neufs, c'est votre stratégie. Est-ce que vous avez une stratégie ville moyenne ou est-ce que vous allez uniquement dans les grandes métropoles ?
Alors, on se rend compte que les grandes métropoles sont quand même les territoires qui ont le plus souffert. Les décrochages en termes d'activité sont très importants. Moi, je viens de la ville de Bordeaux et sur le territoire bordelais, on est à
qui a beaucoup souffert,
plus de 50% de baisse d'activité. Donc, on voit que ces territoires-là, qui étaient quand même fortement producteurs, subissent des chocs beaucoup plus brutaux. Alors que sur les villes moyennes, et en particulier, il y a certaines villes où il y a la notion d'achat-plaisir, elles marchent encore. Et nous, on a des activités et on a des opérations qui sont dans des villes moyennes sur lesquelles on va et on a des succès commerciaux. Donc j'ai envie de dire que, évidemment, que sur les villes moyennes, il faut y aller. On a parfois aussi des contraintes et des ambitions. On en parle souvent, mais l'ambition d'un élu peut être aussi contre-productive parce qu'elle peut amener soit à faire un produit qui n'est pas adapté à la demande. Le fantasme de l'élu qui dit « moi, je veux absolument avoir que des T4, T5 qui ne collent pas avec la demande de ces cellules familiales qui, elles, se décomposent et qui ont plutôt besoin d'avoir du T2, T3 bah, ». Du coup, dans des villes moyennes, l'écoute est beaucoup plus importante. Et donc, du coup, on est beaucoup plus souple. On a beaucoup plus de facilité à faire les opérations. Et ce qui nous tue un peu en ce moment, c'est quand même les délais de production. Et quand on a des temps pour déposer un permis qui peuvent être de 12 mois, 15 mois, voire même 2 ans...
Mais le fait que la ville soit moyenne, est-ce que ça ne facilite pas le délai
justement ? Si, justement. Ça facilite donc, le délai parce que la négociation...
Donc finalement, le maire d'une petite ville qui quand même veut rendre attractif, revitalise son cœur de ville, qui a un peu de foncier, qui a plus de facilité de foncier, qui est même sur une zone qui n'est pas forcément hyper tendue, mais qui a besoin de logement. Ça va beaucoup plus parce que plus vite, ouais. Souvent on fait un reproche, mais on peut le comprendre aussi, le reproche de dire finalement tous les gros promoteurs se concentrent essentiellement sur les grandes métropoles. C'est pas entièrement vrai quand on y réfléchit, puisque il y a des villes intermédiaires. Je prends la ville de Laval ou je prends Châteauroux par exemple, qui sont des villes dynamiques et qui ont une véritable attractivité. La question que l'on se pose justement quand on parle de la régénération urbaine, c'est est-ce que on arrivera à faire de la ville sur la ville, à prix abordable. Ce que vous avez évoqué, le coût des matériaux. Il y a deux choses, finalement, qui font dans le bilan promotion. Coût des matériaux et le coût de main-d'œuvre.
Bien sûr.
C'est une équation dont il sera très difficile à sortir. C'est possible d'arriver à un modèle, peut-être quoi, niche fiscale, des sorties, comment
la réhabilitation a toujours vécu avec un accompagnement fiscal fort. C'est le Malraux, c'est le monument historique, c'est le de Normandie qui est un dispositif qui commence un peu à percer. Donc c'est une activité qui a besoin d'accompagnement. Un des combats qu'on a au sein de la commission, c'est également de ne pas dépendre que des lois fiscalité et d'avoir du coup un ciblage de production aussi pour l'accession à la propriété. Dans cette thématique-là, on a des leviers qui existent sur le papier, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' n'est pas compatible avec les opérations de réhabilitation globale.
Ah bon ?
Non.
Pour faire on ne peut pas rendre éligible la transformation.
Non, parce que pourtant, ça paraît évident.
Oui, ça paraît évident.
Mais il y a deux contraintes à ça. D'abord, nous, il faudrait qu'on soit RGE. Donc, on n'est pas entreprise RGE pour le faire. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est quand même une rénovation globale, y compris les parties communes. Et en fait, on fait un acte réellement de donner seconde vie au bâtiment. Quelqu'un qui est dans un bâtiment et qui fait sa propre réhabilitation et qui va traiter deux points, fenêtres, eau chaude, production d'eau chaude, il va traiter quelques aspects dans son logement, il ne va pas traiter les parties communes, il ne va pas traiter l'enveloppe du bâtiment, et il va faire du coup une opération très court terme. C'est-à-dire que lui, son investissement subventionné par l'État va durer 10 ans. Au bout de 10 ans, il faudra refaire des actions.
C'est ce que fait la copropriété. Aujourd'hui, la copropriété, donc avec MaPrimeRénov', élargit la copropriété, fait des rénovations d'ampleur.
Oui.
Donc, en fait, c'est inéquitable. Hein,
c'est inéquitable. Et donc,
parce que vous faites exactement la même chose. Hein.
Exactement. C'est ce qu'on pousse actuellement. On a eu une écoute très favorable du ministère du Logement, de l'ancien ministère du Logement. On verra comment ça se remet en place. Mais effectivement, ce qu'on pousse, et ce qui paraît assez évident, c'est de dire qu'il faut élargir MaPrimeRénov' aux rénovations globales. Si on fait ça, il y a quand même un sujet, c'est que l'investissement qui est fait par MaPrimeRénov', par notre intermédiaire, est un investissement long terme, parce que nous, on fait un investissement et quand on remet à neuf pour 50 ans, contrairement à une action individuelle d'un particulier qui va le faire pour 10 ans. Donc on pousse l'idée de l'élargissement aux opérations globales on pousse l'idée plus large d'augmenter un peu l'enveloppe, parce qu'en réalité, c'est un investissement qui est plus long terme. Si on fait ça, je pense qu'on répondra à la problématique que vous évoquez, à savoir rendre accessible le logement réhabilité. Mais si on ne fait pas ça, pour l'accession à la propriété, ça ne marchera pas. Donc il y a un vrai sujet législatif sur lequel on n'est pas très manœuvrant, mais sur lequel on a de l'espoir.
Alors justement, quand on voit aujourd'hui les programmes, parce que pour être clair, on ne peut pas ne pas parler un peu de politique, votre industrie a été mise à mal, on peut même dire que c'est toute une industrie qui a été mise à genoux, dans un temps record, puisque c'est arrivé de façon extrêmement brutale. Question, est-ce que vous avez vu un peu les programmes des candidats aux législatives des principaux partis ? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, ce qu'on en pense, c'est on en a parlé, et je suis très étonné de l'intervention de Bruno Le Maire quand il est intervenu au MEDEF en disant qu'il était
surréaliste,
qu'il était prêt et qu'il était même instigateur d'une dynamique collective pour faire bouger les choses. J'ai été impliqué sur beaucoup de réunions, entre autres avec les ministères. C'est un peu désolant parce qu'en fait, tous les sujets qu'on évoque là et toutes les solutions qu'on pourrait pousser, elles existent. Elles sont poussées de façon commune par l'Alliance pour le Logement et Multifédération. Et ce qu'on retrouve dans les programmes, c'est des ersatz de ces éléments-là. Mais surtout, ce n'est pas une vision claire ni long terme de ce qu'il faudrait faire. Donc, en tant que professionnel, je suis très déçu. Peu importe les partis, mais je suis très déçu.
Vous étiez Salgavo,
hein, oui,
au MEDEF. Vous avez entendu. Quel serait le regret que Edwige Février pose la question à Bruno Le Maire. Il dit, quel serait le regret il y a un truc que je n'ai pas fait, c'est le logement. Ça pourrait être risible si ce n'était pas dramatique.
Non, mais c'est ça.
Je suis étonné d'ailleurs que des personnes applaudissent, parce que dans ce genre de choses, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est siffler. Je voudrais bien vous faire réfléchir. Alors, je ne vous demande pas de prendre position, vous ne faites pas de politique. Mais je vais vous égrener, si vous voulez bien, très précisément le programme de chaque parti. Le Rassemblement National fixe comme objectif de transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune financière avec des taux similaires. Donc on congédierait les FI. Pour la rénovation énergétique, ils veulent revoir le calendrier des DPE pour mettre fin aux interdictions de location, notamment celles des étiquettes F et G au 1er janvier 2025 et 2028. De manière, par exemple, à ne pas ôter du marché les passoires thermiques quand on sait que les Français ont du mal à se loger. Sur le marché locatif, il veut suspendre, je ne sais pas si vous l'avez vu, le zéro artificialisation net avec des modalités assouplies. Et pour les logements sociaux, il veut instaurer préférence nationale. Et pour la location, il veut instaurer des nouvelles mesures pour expulser les locataires responsables de troubles.
Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est que globalement, dans les dispositions qui sont faites, il y a un sujet de fond qui est le sujet très clair de la pause normative. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on pousse, nous.
Quand vous entendez « je vais suspendre Lausanne »,
ça revient à ça. Quand on parle de la trajectoire des PE et qu'on demande de suspendre,
vous l'entendez bien, ça. Voilà. Bah oui, forcément.
Donc, évidemment, ça ne fait que écho à des dispositions qu'on a déjà poussées depuis longtemps.
C'est très clair.
Et dans le climat actuel, et pour en avoir parlé plusieurs fois, on est déjà sur des qualités de production, et je parle vraiment de notre thématique logement neuf, on est sur des catégories d'opérations qui sont déjà hyper vertueuses, et on pourrait tout à fait se contenter de rester à ces niveaux-là, qui sont déjà, à l'échelle européenne, parmi les plus performants.
L'Alliance Renaissance, hein, UDI, Horizon, ils ne sont pas rancuniers, hein, en général. Bon, voilà ce que dit Gabriel Attal. Et je vais essayer de ne pas trop rire. Accès à la propriété, exonérer les frais de notaire, donc les droits de mutation, pour les primo-accédants de la classe moyenne, pour les plafonner à 250 000 euros pour la rénovation énergétique, qui avait déjà été revue, hein, avec MaPrimeRénov', France Rénovation, etc. Là, on va encore, il va plus loin, il dit, on va créer un fonds de rénovation énergétique en faveur des classes moyennes, avec l'ambition de rénover 300 000 logements supplémentaires d'ici 2027. Et la location, une mise en place d'une garantie, encore une fois, universelle des loyers, ça rappelle l'ancienne GUL, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour faciliter la location des propriétaires. Ça vous fait sourire ?
Mais oui, parce que là encore, il y a quand même des sujets qu'on pousse, nous, depuis longtemps. Il y a une disposition que pousse Pascal Boulanger, qui est le dispositif qu'il appelait Balladur, c'est-à-dire un principe de succession, de donation, dans le but d'acheter un logement en résidence principale pour les enfants. Donc c'est parfaitement l'idée, on va dire, que pousse Gabriel Attal. Je pense que la difficulté, c'est que ce 250 000 euros ramené à l'exonération des droits de mutation, c'est ni plus ni moins que présenter une sorte de baisse de prix de 7% dans le neuf, dans l'ancien, et 2% dans le neuf, parce que le neuf, c'est quand même très peu fiscalisé. Donc c'est un dispositif qui est très court-termiste et qui, pour moi, est très démago, mais qui, en réalité, n'aura pas d'influence très notable. Donc,
ça a le mérite d'être clair. Alors, pour le plan social, c'est open bar. C'est mort. Aide sociale. Plus 10%, réquisitionner les logements vacants, renforcer les sanctions pour les logements sociaux, notamment pour les normes écologiques, accès à la propriété, étendre le prêt à taux zéro à tous les primo-accédants sans restriction géographique, ce qui convient à dézoner. Location encadrée, tous les loyers. Instaurer une garantie universelle des loyers, c'est vraiment un fantasme, pour protéger les propriétaires et les locataires, rénovation énergétique, isolation complète, avec un renforcement de la prise notamment en termes d'aide, prise en charge totale pour les ménages modestes. C'est très racoleur quand même. Propriétaires, abroger la loi anti-squat et interdire les expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement.
Mais là, on peut se jouer à sa peur si on passe dans ces dispositions-là. D'abord, défiance du marché qui est quand même beaucoup partée par les investisseurs et par les détenteurs. Donc, il y a quand même toute une catégorie de population qui va être impactée, matraquée. Donc là,
vous voyez bien, Pierre Vital, que sur ces trois programmes, on voit que c'est un programme qui est
très démago.
Voilà, très, très démago. Espérons effectivement que sortira tout cela quelque chose de positif. Encore une fois, vous êtes une industrie essentielle pour le logement, essentielle pour l'habitat. Voilà, on voulait faire un focus pour vous. Ouais. Merci Pierre Vital.
Avec plaisir.
Co-fondateur de Ideal Group avec sa filiale Caractère qui fait la rénovation urbaine. Allez sur le site d'Ideal Group, vous verrez, c'est vraiment bien ce que vous faites. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de vous décerner un prix sur vos activités. Merci à vous. On enchaîne tout de suite pour ce 52e congrès.
52e congrès de la FPI, Urgence Logement, jeudi 27 juin 2024 sur Radio Immo.